Présidentielle 2022 avec les élèves de prépa Sciences Po du lycée Victor Duruy à Mont-de-Marsan, quatrième et dernier volet de nos rendez-vous programmés avec les représentants landais des candidats au scrutin du 10 avril prochain, des mouvements et des partis choisis en concertation avec les lycéens. Tenez à le préciser, ont été reçus depuis cet automne Laurence Motoman, conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine, Europe Écologie Les Verts, représentant Yannick Jadot, Boris Vallot, porte-parole d'Anne Hidalgo pour le PS, était également dans nos studios, avant Christian Delfos, le coordinateur dans les Landes pour le parti Reconquête d'Éric Zemmour. Initialement, la ministre déléguée aux armées, Geneviève Darrieussecq, était également programmée comme ultime invitée, devoir de réserve oblige. C'est celui qu'il avait déjà remplacé lors des législatives comme député de la première circonscription des Landes, représentant de La République En Marche, Fabien Lainé, qui est avec nous. Fabien Lainé, bonjour.
Bonjour. Je vous en prie. Heureux d'être sur MDM.
Ben, heureux de vous recevoir. Merci en tout cas d'avoir accepté, au pied levé, de venir vous prêter à cet exercice, qui n'est pas un exercice. Merci en tout cas d'avoir accepté de répondre aux questions donc, sur le programme du candidat Macron. 6 élèves pour autant de thèmes qui seront donc évoqués durant cette émission. Le premier est en lien, forcément, avec l'actualité internationale. C'est celui du conflit en Ukraine et la question de la défense. C'est ce qui va se passer avec vous, Emma Hoguin.
Alors, moi, j'ai des questions donc, qui sont en lien avec l'Ukraine, elle est l'actualité, bien sûr. Donc, si jamais la France devrait s'engager dans ce conflit, est-ce qu'à l'heure actuelle, on aurait les moyens nécessaires pour mener des combats de haute intensité? Certains candidats parlent de quelques jours avant d'être à court de munitions. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est même, si je vais me permettre, c'est même Christian Cambon, il est président de la commission de la défense et des armées au Sénat, oui. Qui avançait donc voilà, qu'on ne tiendrait pas 4 jours.
Exactement.
Je sais quelle est la nature de ce débat, sûrement de grands patriotes pour parler de ça sur la scène publique, je veux vous rassurer à cet égard. Déjà, ça n'a pas de sens d'imaginer un conflit de haute intensité de la France sans ses alliés. On est dans le commandement intégré de l'OTAN, et donc si jamais notre territoire national, nos intérêts étaient attaqués, effectivement, nous serions en fait belligérants dans le cadre de nos alliances avec les Américains, les Allemands, nos partenaires européens, la Turquie. Donc ça n'a pas de sens de voir les choses comme ça. La France seule ne peut pas être attaquée, ou alors l'OTAN n'existe plus. C'est-à-dire qu'on a manqué quand même, on a sauté beaucoup d'épisodes. Bon. Sur les équipements militaires, enfin, Monsieur Cambon, qui est LR, je veux quand même lui rafraîchir la mémoire. Quand je regarde quelle a été l'évolution de la LPM, la loi de programmation militaire sous le mandat de Monsieur Sarkozy, ça a baissé de 5 milliards. Aujourd'hui, depuis 2017, on a rajouté, et c'est cumulatif ce que je vais vous dire, en 2018, 1,8 milliard de plus sur le budget de la défense et 1,7 milliard chaque année avec la loi de programmation militaire. Et on doit faire un saut dans quelques années si on est reconduit, pour arriver à 2% de dépenses militaires sur le budget. Bon, donc voilà, déjà qu'ils baillent devant leur porte, nous on a pris nos responsabilités. Et on avait anticipé qu'il puisse y avoir des tensions internationales accrues en musclant à nouveau notre outil militaire. On a beaucoup investi, je vous dis, ces milliards de plus cumulés. Donc la France a pris ses responsabilités. Et si on a effectivement suffisamment de munitions pour un combat de haute intensité, et particulièrement dans le cadre d'une alliance otanienne, donc pas d'inquiétude à ce sujet-là. Donc voilà, c'est pas la peine de polémiquer sur ces sujets-là, je parle pas pour vous, mais je parle pour M. Cambon, mais même le Front National et Reconquête sont venus sur ces sujets-là, une fois de plus, chacun prend ses responsabilités, nous avons pris les nôtres.
Très bien, alors donc vous avez commencé un peu à amorcer ma prochaine question, qui concernait les dépenses militaires. Est-ce que 2% du PIB, c'est assez, aujourd'hui, dans ces temps troublés?
Certainement pas, mais il fallait déjà y tendre, ce que nous avons fait. Et je vous dis, par rapport à ce qu'on a voté en 2018, c'est la première fois que ça arrive, donc désolé d'y revenir, mais qu'une loi de programmation militaire soit respectée à ce point-là, c'était toujours la variable d'ajustement budgétaire jusqu'à présent. On avait besoin pour l'économie, pour la santé, on prenait toujours dans le budget militaire. Alors, malgré les crises qu'on a traversées pendant ce mandat-là, on a respecté la loi de programmation militaire à l'euro près. Donc, voilà, donc, et quand vous discutez avec nos militaires, ils le reconnaissent. Il faut sûrement aller plus loin, tendre peut-être à 2,5% du PIB, parce que vous voyez la montée des menaces, et que pour faire la paix, il faut déjà préparer la guerre. Et donc, il faut être crédible sur notre outil de défense, sur notre dissuasion nucléaire. Vous avez vu qu'on avait refait tous nos standards et rénové complètement notre puissance nucléaire à travers les deux composantes aéroportées, c'est-à-dire sous les rafales, le missile sous les rafales, et celui qu'on a dans les SNLE, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Donc la France, aujourd'hui, est une grande puissance militaire avec la dissuasion nucléaire, avec deux composantes, même les Anglais ne l'ont pas. Hein. Donc on fait partie du club très fermé. Vous avez les États-Unis, la Russie, la Chine et la France qui sont à peu près au même niveau. Après, il faut lancer des chantiers d'avenir. Alors, on les a déjà lancés, du reste, mais sur les 60 nouveaux Rafales que le président de la République a annoncé dans son programme, 5 nouveaux sous-marins à propulsion nucléaire, mais conventionnelle, et puis également 1250 blindés. Donc vous voyez que c'est quand même un élargissement de notre outil de défense. Et puis les chantiers d'avenir, sur le cyber, il faut toujours qu'on soit en avance. Il faut qu'on soit en avance aussi sur la vélocité de nos missiles, et puis avec les nanosatellites, enfin voilà.
Oui, donc, Fabien Lenné, si je puis me permettre, au Mali, c'est pas de la cyberguerre, et on recule, enfin on s'en va.
Non, on s'en va pour des raisons politiques.
Ouais.
On a été invité par le gouvernement malien, qui menaçait d'être remplacé par un gouvernement comme l'État islamique, hein, si vous voulez.
Oui.
Et donc, il nous a appelés au secours. Nous avons répondu présent et notre volonté était de stabiliser toute la bande sahélo-saharienne. Bon, il ne vous a pas échappé que le gouvernement malien a changé plusieurs fois. Il y a eu un coup d'État et il préfère aujourd'hui Wagner, dont on connaît les méthodes, plutôt qu'évidemment la coalition, parce que les Français n'étaient pas seuls, hein, au Mali. On est avec des partenaires européens qui sont des armées issues de pays qui respectent l'état de droit. Le gouvernement malien a fait d'autres choix. Nous avons pris acte, nous nous retirons du Mali et nous le regrettons. Mais nous restons présents dans toute la bande sahélo-saharienne à la demande des autres gouvernements et pour stabiliser cette région-là. Je loue le travail de nos militaires qui sont, et certains de Mont-de-Marsan, hein, ont été en mission là-bas. Donc voilà, je salue l'action de pacification qui est faite, de stabilisation et également de développement. Mais c'est très très compliqué, très long, très ardu et franchement, il faut vraiment saluer ceux qui sont à la manœuvre aujourd'hui, que ce soit les humanitaires ou nos militaires.
Très rapidement, une dernière question sur, on va pas l'éluder celle-là, sur l'actualité, dans l'actualité nationale et la Corse, bien entendu.
Donc, suivant la mort d'Ivan Colonna et toutes les revendications qui apparaissent un peu partout en Corse, mais aussi en France, avec un comité de Bretagne qui souhaite l'indépendance des Bretons, l'autonomie de la Corse, est-ce que ce serait le chemin vers l'indépendance ?
Non. Mais
je suis même pas certain que les Corses s'y attendaient à cette proposition.
Alors, il y a une cohérence en tout. Un calendrier malheureux, clairement.
Ça veut dire que la question de l'autonomie, elle était déjà dans les tuyaux avant.
Il y avait une réflexion qui s'était opérée depuis un petit moment. Quand vous savez que la Corse, c'est la seule île de Méditerranée qui n'est pas d'autonomie. Très bien qu'on ait une tradition jacobine. Moi, c'est pas ma tradition politique. Moi, je suis un Girondin, mais de naissance du reste,
oui.
mais en plus de tradition. Mais je pense qu'on gère bien au plus près. Et moi, j'ai toujours été favorable à une forme de régionalisation du pays, parce qu'en fait, donner des responsabilités au plus près des territoires, c'est les mettre aussi en situation de responsabilité. Et pourquoi les Corses n'auraient pas ce niveau de responsabilité ? Vous avez vu que dans l'annonce du programme d'Emmanuel Macron, il y a la volonté de réorganiser les territoires politiquement, institutionnellement. Peut-être qu'en Alsace, on n'a pas besoin de deux conseils départementaux et que remettre la région à l'échelle des deux départements d'Alsace, c'est une solution. L'assemblée territoriale en Corse, oui, mais peut-être qu'on peut aller plus loin en leur permettant de légiférer sur certains points qui concernent l'île. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça. Vous voyez que les Baléares ou la Sardaigne ou la Sicile ont des autonomies et ça fonctionne bien et ils réclament pas leur indépendance. Donc il y a un dogme là-dessus en France où on imagine que donner un peu plus de pouvoir aux régions accélérerait en fait une mise en pièces détachées de la France. Pas du tout. Au contraire, je pense que l'attachement à la République, c'est aussi de faire confiance au plus près des territoires. Et que ça ne me choquerait pas que certains territoires demandent un peu plus de pouvoir en matière de... D'ailleurs, c'est dans le programme d'Emmanuel Macron sur plein de sujets, que les acteurs locaux soient au plus près des décisions. À la faveur des crises que nous avons vécues ces dernières années, il faut peut-être imaginer différemment notre architecture institutionnelle. Donc moi, je trouve ça plutôt positif qu'on imagine de négocier certaines formes d'autonomie avec certains territoires de la République, comme on l'a fait d'ailleurs à l'époque avec la Nouvelle-Calédonie ou avec la Polynésie.
Vaste sujet qui aurait mérité certes plus de temps. Merci beaucoup Emma Auguin. Vous pouvez rester d'ailleurs si vous voulez rebondir sur les questions ou intervenir sur les questions que Marthe Kahn, qui nous a rejoint. Bonjour Marthe. Autour de la question, et les questions, devrais-je dire, questions sociales du programme d'Emmanuel Macron.
Alors, Emmanuel Macron, dans son programme, souhaite réformer le RSA en faisant participer ses bénéficiaires à 15 à 20 heures de travail afin de les réinsérer, de sorte à ce que, je cite, « ce ne soit pas seulement une prestation, mais un accompagnement ». Comment cela va-t-il se mettre en place ? Dans quel secteur les bénéficiaires pourront-ils travailler ? Et enfin, qu'est-ce qui est prévu pour les personnes non aptes à travailler ?
Bien, vaste sujet qu'est le RSA, sujet emblématique dans notre pays depuis qu'il a été lancé par Michel Rocard, je crois que c'était en 1991.
Ouais.
Oui, ouais. C'était sous Michel Rocard, 90-91 en tout cas, là, qui était un progrès social, clairement, ce qu'on appelait le RMI, qui est devenu le RSA. un grand progrès. En même temps, on se retrouve avec des personnes, et c'est aussi l'ancien maire qui vous parle, qui a géré, qui a été président de son CCAS.
Maire de Sanguinet, je rappelle.
Maire de Sanguinet, la magnifique commune de Sanguinet, tout au nord de notre beau département des Landes. Et donc, voilà, j'ai essayé de comprendre, quand j'étais maire, comment on pouvait œuvrer à une meilleure insertion. Et sur certains territoires, c'est bien pire qu'à Sanguinet, effectivement. Donc, je pense qu'il faut sortir de toute forme d'idéologie. L'idée, c'est de continuer à protéger, d'avoir un filet de protection pour nos compatriotes les plus vulnérables. Mais comment on fait pour les faire sortir de ce que certains appelleraient l'assistanat ? Ce n'est pas mes mots, mais je veux parler au plus grand nombre. Parce que souvent, il y a des raisons psychologiques, il y a des raisons familiales, il y a des raisons de manque de formation. L'idée de la droite, je ne mets même pas dedans, des candidats à droite, c'est de dire « on va faire des travaux d'intérêt généraux ». Donc comme si c'était une punition, comme si vous voyez les gens en combinaison orange aux États-Unis qui font des travaux. L'idée, ce n'est pas ça. L'idée, c'est de trouver une voie, un chemin vers une orientation professionnelle. Voilà. On pense que le travail est une voie d'inclusion. Donc, formation.
Comment vous financez ça ? Le chantier est colossal.
Mais comment on a réussi à réformer la formation dans ce pays sur le dernier mandat et l'apprentissage dont on disait que ça serait pas possible.
Parce qu'il faut les formateurs aussi.
Ça serait pas possible. Oui, mais enfin, c'est quand même quelque chose qui sera progressif et de la mise en œuvre. Et puis, on a décidé d'associer les territoires là-dessus, une fois de plus. La situation en Lorraine n'est pas la même, où vous avez beaucoup de misères qui sont liées à la désindustrialisation des territoires, avec les Landes, par exemple, et c'est encore bien différent dans la banlieue de Clermont-Ferrand. Donc, il faut évidemment associer les élus locaux, trouver des orientations professionnelles à ces personnes qui sont restées trop longtemps loin d'emploi. Bien sûr, je ne parle pas des gens en situation de handicap, de maladie longue, etc. Mais l'idée, c'est quand même que les personnes qui sont validées et qui peuvent avoir un avenir professionnel, bien, il faut leur tendre la main. Et donc, pour ça, il faut les remettre effectivement dans une activité professionnelle avec une formation à laquelle. Ça n'a pas de sens s'il n'y a pas la formation professionnelle à côté. Et quand on voit qu'on a tant de secteurs en France où on n'arrive pas à recruter, alors pendant longtemps c'était l'agriculture avec des travaux difficiles dont on pouvait comprendre, mais dans l'industrie, dans l'hôtellerie-restauration, trouvé dans le BTP, donc vous voyez, et même aujourd'hui dans l'aide à la personne. Donc, on a plein des métiers, de beaux métiers d'avenir. Il faut aller chercher ceux qui sont éloignés de l'emploi depuis trop longtemps. Et leur tendre la main, et je vous assure que c'est quand même pas un but pour la plupart de nos compatriotes de vivre avec le RSA. Le but, c'est quand même de rentrer dans la société, avec un travail, une formation et une vie sociale.
Alors, en ce qui concerne la retraite, aujourd'hui, de nombreuses personnes diplômées travaillent au-delà de 62 ans, car elles ont commencé à travailler bien plus tard et qu'elles n'ont pas leur retraite complète. Et au contraire, il y a d'autres personnes qui ont commencé à travailler plus tôt, dans des secteurs physiquement difficiles par exemple, et qui devront travailler plus longtemps alors que la nécessité économique n'est pas urgente. Est-ce que la réforme de la retraite d'Emmanuel Macron est-elle plus une volonté idéologique qu'une nécessité économique ?
Bon, le président l'a dit lui-même, il n'y a pas d'idéologie derrière ça. Il y a la volonté d'être responsable. L'idée, c'est de construire un modèle de retraite plus juste. On est quand même dans une vision pragmatique des choses. Comment on finance le modèle ? Comment on assure le minimum vieillesse, dont on sait la difficulté aujourd'hui de vivre le minimum vieillesse avec l'augmentation des matières premières, de l'essence. Bon, ça, c'est un vrai questionnement social. Et puis, comment on prend en compte la longévité et la pénibilité ? Donc, comment on fait ? Mais voilà, donc on change de méthode par rapport à la dernière fois. Donc
très mal. La méthode a été, c'est passé à quasiment à l'as. Ça a été annoncé, noyé au milieu. Je suis d'accord de l'actualité internationale, mais il n'y a pas une grande réaction, y compris parmi les opposants.
Chacun sait de toute façon qu'on ne pouvait pas rester dans les paradigmes actuels. Donc
il y a des questions. Le vigile qui s'est fait tabasser hier, il a 62 ans. Enfin, il y a des métiers. Il va falloir vraiment. Est-ce que c'est encore jouable d'aller jusqu'à 65 ans ? Il y a la pénibilité du travail, certes, mais il va peut-être falloir l'étendre à d'autres corps de métier.
Bon, c'est déjà progressif. C'est 4 mois.
Il avait 62 ans, je ne sais pas si je l'ai dit, ce vigile.
C'est 4 mois. Mais enfin, vous pouvez avoir 62 ans, être dans une bonne forme physique et avoir 55 ans et être dans une situation beaucoup plus dégradée.
Je sais pas si à 65 ans, je pourrais vous interviewer encore.
J'ai aucune raison de penser que ce serait l'inverse. Et quand je vois dans nombre de métiers des gens qui souhaitent continuer leur activité professionnelle parce qu'ils se sentent bien, voilà. Donc je pense que l'idée, c'est d'être à la carte. C'est un peu ça. Et donc, en fonction de votre carrière, de la pénibilité, de la longévité, si vous avez commencé à travailler très tôt sur des métiers pénibles et vous avez vu qu'on changeait, on ne peut plus voir la retraite telle qu'on l'imaginait avant, avec un seul métier, et on est dans la même entreprise, dans la même administration tout le long d'une vie. C'est plus ça, donc il fallait complètement réadapter la conception même de la retraite. Donc c'est ce qui va être fait. Donc on intègre les éléments de pénibilité et de longévité. Donc quelqu'un qui est usé effectivement prématurément à 60-62 ans, ça sera inclus aujourd'hui dans le calcul de la retraite et avec la possibilité d'en sortir. Mais ceux qui sont en bonne forme, ceux qui ont travaillé dans les bureaux toute leur vie et qui n'ont pas de pathologie particulière, parce qu'on peut avoir quand même en étant dans un bureau, des pathologies particulières, et que ceux-là, s'ils veulent continuer même après, ils pourront continuer à cotiser et à travailler en même temps. On a vu que dans tous les pays où on avait décalé tard l'âge de la retraite, en fait, même le chômage des seniors, ce qu'on appelle les jeunes seniors, avait reculé aussi, parce qu'en fait, on ouvre un peu plus les droits. Et dernière chose, c'est que on vit de plus en plus longtemps. Donc
oui, mais on vit plus pour travailler plus.
Non.
À ce moment-là.
Non, je suis pas d'accord avec vous. Qui paye ? On pense souvent que quand on travaille, on paye notre future retraite. Oui, le système de capitalisation, certainement. Mais notre système français de répartition, c'est les actifs d'aujourd'hui payent les retraités d'aujourd'hui. Donc il faut en permanence que ce système soit équilibré. Et s'il ne l'est pas, c'est l'impôt qui doit y contribuer, et puis un grand déficit, et avec ce déficit, c'est payé par l'argent du contribuable. Donc c'est être en responsabilité que d'assurer aujourd'hui les actifs, et voilà. Donc de toute façon, on n'a pas d'autre marge de manœuvre raisonnable, on en a d'autres. C'est quoi ? C'est augmenter les cotisations retraite ? On ne va pas baisser évidemment les pensions. L'idée, en plus, avec la crise du pouvoir d'achat, c'est plutôt de permettre d'augmenter raisonnablement, de façon à ce que les gens vivent dignement. Quelle est la variable qui nous reste ? C'est celle de l'ajustement de la durée du travail en étant beaucoup plus juste sur pénibilité et sur depuis quand on a commencé. Voilà.
Je propose qu'on marque une courte pause musicale et on se retrouve juste après pour la suite de cet entretien avec Fabien Lainé. Rolling up to vote, I took my Benson. England's blowing smoke and needs attention. Could use a lick of paint to change a color. Before they send us back across the water. Think I got a neighbor that's been feeling blue. But they won't stand down no matter what you say or do. How do you learn to love if you're not taught to? How do you dream of freedoms on a curfew? Paying the price to live in our skin is wearing me thin.
In the bank for bread and butter. Don't want to see no doctor when we suffer. Think I got a neighbor that's been feeling blue. But maybe that's a symptom. Fucking with a kingdom that never fought for you.
Society.
Radio MDM, retour pour la seconde partie présidentielle de 2022 avec les élèves de Sciences Po du lycée Victor Duruy à Mont-de-Marsan face aux représentants landais des candidats au scrutin du 10 avril prochain. Fabien Lenné, député Modem de la première circonscription des Landes, est avec nous. Donc on va parler de fiscalité, on va parler de social, mais on va parler aussi d'autres sujets sensibles qui ont animé en tout cas ce dernier quinquennat. Ce sont la santé et l'éducation. Léna Pipierno et Soizic Braconnier nous ont rejoint. Léna, c'est vous qui allez débuter. Bonjour à vous.
Bonjour, Fabien Lenné. De nombreuses zones rurales sont actuellement des déserts médicaux où il faut parfois parcourir de nombreux kilomètres pour trouver un médecin. Comment Emmanuel Macron compte-t-il résoudre ce problème ?
Problème ancien, effectivement, vous avez bien raison de le relever. Assez dramatique pour les zones rurales. Moi, j'ai la chance d'être député d'une circonscription, l'une des plus grandes de France. Donc, j'ai à peu près tous les modèles sur la santé, j'entends. Or, ce qui m'inquiète, clairement, et on va partager cette inquiétude, je pense, c'est que même dans les endroits qui sont riches, enfin plus riches en tout cas, plus urbains, même là, on commence à avoir des déserts médicaux.
À Mont-de-Marsan,
c'est très compliqué d'attirer, quand je discute avec le directeur de l'hôpital et avec les soignants, les syndicats, je vois bien la difficulté qu'il y a d'attirer des infirmières, pour attirer des médecins. C'est que des spécialités, c'est très compliqué. Le patron de l'hôpital doit se battre pour attirer ses praticiens.
Donc, voyez même que pour même des là... médecins de ville, des médecins généralistes.
Mais oui, c'est même encore pire. Donc, pendant longtemps, on a pensé faire des économies dans la santé en limitant le nombre de formations des médecins et d'infirmières. Bon, erreur totale. On avait promis que si on arrivait aux affaires, on appelait ça le numerus clausus. Donc, on ferait sauter ce numerus clausus, ce qu'on a fait en 2018. Donc, comment on organise la pénurie ? Parce qu'il s'agit bien d'organiser la pénurie aujourd'hui.
Et comment attirer les nouveaux médecins dans les zones rurales qui ne sont pas très attractives et qui sont moins riches et moins belles que la côte landaise ?
Absolument. Mais même, je vous dis, sur la côte landaise, il y a un souci. Donc, comment on fait ? Eh bien, on s'organise. On décloisonne les choses. Donc, le médecin en hospitalier, il peut également aller faire de la médecine de ville. À Mont-de-Marsan, ici, ou également dans la Haute-Lande. On regroupe les médicaux, c'est ce qu'ils nous demandent aujourd'hui. C'est travailler en étant dans le même lieu, dans des maisons médicales, travailler avec des typologies de soignants différents. Donc, qu'on a le podologue, mais également le spécialiste, le pédopsychiatre, également le médecin de ville, etc. Et on regroupe. On a des assistants qui permettent effectivement de leur donner plus de temps médical. Donc ça, c'était le plan Ma Santé 2022 où on va aller plus loin encore. Évidemment, avec les nouvelles technologies, avec la fibre qui se déploie sur tout le territoire, on peut faire de la téléconsultation.
Mais est-ce que vous pensez, par exemple, sur la téléconsultation, que des personnes âgées, par exemple, en zone rurale, qui auront un accès limité à tous les appareils les appareils électroniques, est-ce que vous pensez qu'ils sont prêts à passer à la téléconsultation ?
Oui, s'ils sont accompagnés. Ils peuvent être accompagnés après d'un auxiliaire. Donc, si vous voulez, imaginons le couple de personnes âgées qui a besoin d'avoir une téléconsultation à Luxeuil. Il peut aller à la maison médicale ou à La Boye. Il peut aller à la maison médicale de La Boye et avoir une téléconsultation avec le praticien de Mont-de-Marsan ou de Bordeaux. Il sera accompagné. Donc voilà, évidemment qu'on ne laisse pas seul les personnes dans la téléconsultation s'ils vont dans un centre médical. Donc oui, c'est un accompagnement. C'est vraiment l'idée, c'est de développer ces assistants médicaux et encore beaucoup plus vite et selon les besoins des territoires, de façon à libérer le max de temps médical aux soignants. Et c'est aussi permettre, notamment en matière de prévention, que les infirmiers, infirmières et pharmaciens, pharmaciennes puissent faire aussi de la prescription médicale. Donc c'est pareil, c'est pas la peine d'aller chez le médecin pour des renouvellements d'ordonnances ou certains renouvellements d'ordonnances ou pour faire des actes de prévention. Ça peut être fait en prescription par ces soignants-là. Ça, c'est la nouveauté. Ça va permettre encore de libérer le médecin, ce qui reste, sur du temps médical et d'être efficient. Bon, voilà. Mais j'insiste aussi, il faut qu'on travaille énormément sur la prévention dans ce pays, dans la mesure où on n'est pas bon depuis longtemps. Donc, changeons les paradigmes aussi là-dessus.
Deuxième question. Selon le syndicat national des professionnels infirmiers, il y aurait 60 000 postes d'infirmiers vacants et les 383 € de salaire en plus donnés par le Ségur de la Santé n'ont pas suffi à stopper les départs qui sont toujours plus nombreux. De plus, l'écart de salaire en France entre les salaires des infirmières françaises et les salaires des infirmières européennes reste assez conséquent. Emmanuel Macron a annoncé dans son programme qu'il voulait embaucher des infirmiers et des aides-soignants. Déjà combien ? Et comptent-ils revoir leur salaire à la hausse ?
Alors, on a traversé une crise sanitaire pendant 2 ans, et vous voyez, d'ailleurs, d'après les derniers chiffres, qu'on n'en avait pas tout à fait sorti. Et du coup, ça a changé totalement les paradigmes qu'on avait de la santé de l'hôpital, que les Français avaient de leur système médical. Bon, et de l'hôpital.
Les Français étaient les premiers à se rendre compte des carences.
Mais là, on a tous eu. Enfin, je veux dire, c'est éclatant.
Oui.
Et donc on a vu quand même que l'hôpital a tenu. Donc, alors évidemment, avec des mesures de protection des populations, etc., mais a tenu. Donc, avec une hémorragie, effectivement, de certains soignants, clairement, on est d'accord hein, sur le constat. La volonté, c'est d'embaucher 2800.
Mais est-ce que c'est encore un métier attractif
ETP. Je pense que ça peut redevenir attractif si on facilite la vie des soignants à l'intérieur de l'hôpital. Le problème des soignants, des médecins, des infirmiers, infirmières, aides-soignants, c'est qu'il y a encore beaucoup trop de parts administratives. Par rapport aux Allemands, par exemple, on a beaucoup trop de parts administratives encore dans leur métier. Donc là aussi, leur redonner du temps médical. On en a peu, donc il faut optimiser. L'idée, c'est que dans les soins critiques, donc notamment en réa et urgence, on puisse avoir un infirmier pour 4 lits. Ça, c'est un pari, c'est dans le programme Macron. Donc, il faut embaucher 2800 ETP, équivalent temps plein. Et à ce compte-là, on va rendre l'hôpital plus vivable. Donc, je pose la question, effectivement, de l'attractivité de l'hôpital, mais qui n'est pas qu'une rémunération. Si j'entends les témoignages des soignants, de leurs syndicats, de leurs représentants, c'est aussi un confort de vie au travail dans l'institution hospitalière.
Est-ce que vous pensez que l'administratif est la seule raison qui fait que les soignants sont épuisés ?
C'est un changement total de la façon de faire qu'il faut imaginer. Mais il faut mettre les moyens. Moyens sur la prévention, faire les tests au bon moment, au bon âge, etc. Et on n'est pas bon là-dessus, clairement. Une fois qu'on arrive à l'hôpital sur ces sujets-là, on occupe beaucoup nos soignants, de l'aide-soignant en passant par l'infirmière jusqu'au médecin. Donc, si on fait plus de prévention, on va y arriver. Si on enlève un peu d'administratif, on va y arriver. On va recruter aussi. Donc, vous voyez qu'on agit sur plusieurs leviers. On est en train de mettre plus de place dans les universités pour que ça corresponde aux besoins pour les places d'élèves soignants, médecins et infirmiers. Donc ça aussi, c'est une bonne chose. Donc reste les médecins où ça sera plus long. Donc il faut qu'on s'organise.
Et vous comptez les augmenter, les infirmières, ou pas ?
C'est dans les tuyaux. Je ne peux pas en dire plus, c'est une décision du gouvernement. Donc on attendra que le gouvernement soit nommé. Mais s'il faut ça pour rendre plus attractive la profession, on l'a déjà fait, comme jamais personne ne l'avait fait avant, quand même, si vous regardez, sur les 30 dernières années.
Oui,
donc
mais l'écart est tellement énorme comparé aux pays européens.
Oui, mais nous, une fois de plus, je l'entends tout à fait, c'est comme les enseignants. Mais nous, on a su prendre nos responsabilités. Je ne doute pas qu'on les reprendra s'il faut une autre fois, une fois de plus, c'est la santé des Français. Surtout avec un vieillissement de la population. Donc, on doit être sur cette ligne-là. Mais ce n'est pas le seul sujet.
D'accord, très bien, merci.
Merci, Léna Pipernour. On va passer au thème suivant. Soazic Braconnier est avec nous. Et on dira que Jean-Michel Blanquer n'aura pas été le ministre dont les oreilles auront le moins sifflé pendant ce mandat. Vous l'avez compris, on va parler donc d'éducation.
Bonjour, monsieur Léné.
Bonjour.
Le programme de La République En Marche propose de donner plus de liberté aux établissements scolaires, comme ça avait été promis en 2017. Mais pourtant, on ne remarque pas vraiment que les établissements sont plus libres ou indépendants. Comment vous comptez concrètement mettre ça en place ? Par quelles mesures ? Par quels changements ? Par exemple, Valérie Pécresse compte mettre les établissements sous contrat avec l'État. Est-ce que vous en inspireriez ?
Effectivement, après l'énorme chantier de la santé sous l'éducation,
c'est pas mal.
Ce sont des investissements d'avenir pour le pays et le bien-être du...
Ah, c'est sur société. Ce sont des sujets sur lesquels elle a été le plus chahutée.
Des fois, on dit qu'il y aurait 67 millions de sélectionnaires en France. Ouais. Moi, à mon avis, il y aurait aussi 67 millions de ministres de l'éducation. Parce que chacun a sa vision de l'éducation dans ce pays-là. Donc voilà, une fois de plus, faut prendre un peu de recul par rapport aux choses. Nos deux mamelles, si je puis m'exprimer ainsi, en matière d'éducation, c'est équité et transparence. Donc, l'idée, c'était que souvent, la République, elle dépense beaucoup d'argent pour réparer ce qui était une équité de départ et qu'on n'a pas su changer. Et donc, après, on va y mettre beaucoup d'argent, notamment, on parlait de l'insertion tout à l'heure, de la formation, etc., mais bien tardivement. L'idée, c'est qu'au départ, évidemment, on n'est pas tous dans des situations, dans les mêmes familles, dans des situations équitables et d'accès à l'éducation dans les mêmes moyens que dans les beaux quartiers, par exemple. Donc, le dédoublement des classes en CP et CE1 dans les REP et REP+, était une solution qui s'est déployée sur tout le territoire, qu'a-t-on pas dit d'ailleurs à l'époque, et finalement ça s'est bien passé. Bon, certainement faut-il aller plus loin encore, et en tout cas c'est un pari qu'on fait sur l'éducation. Mieux payer les enseignants, évidemment, et les rendre plus autonomes au niveau des écoles. Donc avec des vraies directions d'école, qui aujourd'hui, quand vous êtes directeur d'école, directrice d'école, vous êtes coordinatrice, animatrice ou animateur, mais certainement pas chef d'établissement comme on peut l'être dans certains domaines. Bon, et puis rendre plus transparent également les résultats des filières d'enseignement de certaines écoles, de façon à ce que, une fois de plus, cette transparence soit signe d'amélioration en permanence du système. reste après à certains professeurs qui souhaitent être augmentés la possibilité de s'inclure davantage dans une démarche d'enseignement et d'accompagnement des élèves et d'être mieux rétribué comme ça se fait dans d'autres pays. Du reste, on n'a rien inventé, mais on ne le pratiquait pas en France parce qu'on a toujours ces fameux dogmes. Bon, donc aller plus loin pour ceux qui veulent aujourd'hui s'insérer dans le parcours de l'enfant avec de l'accompagnement enfant, des heures sup, etc. et une meilleure rémunération, ce qui semble assez normal. Donc voilà à peu près comment on veut orienter notre politique d'éducation. Puis d'autres dispositifs qui est sur les stages en entreprise, l'apprentissage du français et des maths, le tronc commun mathématiques assez fort en lycée. On a un problème aussi, les filles ne vont plus dans les filières scientifiques et mathématiques, ce qui est un vrai souci aujourd'hui. Français où il faut renforcer, par exemple, l'enseignement, notamment au niveau du collège. Les 30 minutes de sport, ça ravit tout le monde, peut-être, garçons comme filles, il y a certains, bon. Mais c'est quand même le bien-être au collège, tous les matins. Donc, en tout cas, primaire, collège, plus de sport, parce que c'est aussi le bien-être, la lutte contre la sédentarité, l'obésité, qui sont quand même des vrais sujets dans nos sociétés contemporaines. Et s'y attaquer de front, je trouve que ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
En parlant du bac aussi, vous n'êtes pas sans savoir que le taux de réussite au bac est très élevé, 98% en 2021. On peut ajouter aussi le fait que ça fait deux années que le bac est dépourvu d'examen. Est-ce qu'il ne perdrait pas un peu de sa valeur ces dernières années?
Ça fait des années qu'on entend, pour vous rejoindre, que le bac a perdu, le diplôme a perdu de sa substance.
Clairement, c'est vrai que le débat a lieu depuis des décennies même, avec effectivement quel est notre rapport au baccalauréat, que sanctionne-t-il réellement. Donc vous voyez que...
Le fossé aussi qu'il peut y avoir derrière.
Le fossé entre certains territoires.
Non mais même quand on franchit, quand on se retrouve à l'université, c'est pour voir, voilà, c'est plus le même niveau.
Et vous n'allez pas tarder du coup à m'interroger sur Parcoursup là-dessus. Mais je vous ai bien vu venir. Et moi je revendique cette réforme. Enfin, moi j'ai connu ce bac, on passait le bac, on pouvait aller... moi j'avais mon bac ES, je pouvais aller en médecine. Donc j'étais sûr de faire un four. Et d'ailleurs... On avait, je crois que c'était 70% des élèves qui passaient pas le cap. J'étais en fac de droit, j'ai pas beaucoup mieux réussi, vous me direz, sur la première année, où on avait à l'époque 70% aussi de gens qui ne passaient pas là-bas.
Oui.
Bon, tout ça c'était une grande hypocrisie nationale, que chacun avec un bac pouvait tout faire. Bon, prendre le mérite, la réussite, le parcours scolaire de l'enfant dans sa démarche sur son orientation universitaire me paraît quand même quelque chose de beaucoup plus honnête. Alors évidemment, quand vous passez du laxisme généralisé, excusez-moi l'expression, à quelque chose de beaucoup plus organisé, ténu, etc., avec des méthodes en plus numériques, qui paraissent un peu froides, effectivement, quand on fait ses demandes et dont on ne sait pas jusqu'au dernier moment si on va être pris, et l'angoisse que ça génère, je comprends bien. Donc, il y a des assouplissements, d'ailleurs, qui sont prévus de Parcoursup et plus de transparence dans le programme du président de la République, candidat. Bon, moi, je m'en réjouis, effectivement. Il fallait arrondir un peu, assouplir. Nous, on a fait pas mal d'interventions sur... Ces étudiants, en fait, qui étaient un peu perdus sur le Parcoursup. Mais enfin, pour rien au monde, je pense qu'il faudrait revenir en arrière, quoi. Voilà. Mais ce qu'il faut, au-delà, j'y reviens, si je parlais de deux mamelles de l'éducation, c'est équité et transparence, mais également que les filières soient beaucoup plus transparentes. Quand on veut s'engager dans tel domaine, quels sont les débouchés? Quels sont les taux de réussite? Et quels sont les niveaux de salaire aussi de ces étudiants quand ils embrasseront telle ou telle orientation? Voilà. Donc, si on arrive à mener de front ces combats-là et ces réformes-là, je pense qu'on améliorera d'un côté notre classement PISA. On s'en fout d'être au bas dans un tel ou tel classement, mais c'est la réussite qu'on va donner à nos enfants de façon à les inclure dans un avenir professionnel beaucoup plus serein et adapté. Et puis, moi, je me réjouis aussi qu'on augmente le temps d'entreprise, de stage, et on va rémunérer les jeunes. C'est bien qu'on sorte hors les murs de l'école. Voilà. L'ouverture sur le monde professionnel, dans les administrations, dans l'associatif ou également dans l'entreprise. Et puis il y a d'autres sujets aussi dont on aurait pu aborder, comme le harcèlement, qui est un vrai sujet, surtout à l'époque du numérique, où c'est quand même une vraie souffrance quand même que vivent certains enfants et des familles entières avec des suicides. Bon, voilà, donc il y a quand même une volonté aussi de travailler beaucoup sur ce sujet-là, notamment avec un délégué par classe anti-harcèlement. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui fait que l'école doit être également aussi plus humanisée, même à l'époque du numérique.
Merci mesdemoiselles. Achille Arménio et Elsa Denuel vont nous rejoindre pour le dernier volet de ce rendez-vous avec Fabien Lainé pour les sujets de fiscalité et d'écologie.
Donc bonjour monsieur Lainé. Donc nous avons vu précédemment avec la suppression de la taxe d'habitation, puis récemment avec l'annonce d'Emmanuel Macron comme quoi il y aurait 15 milliards de baisses d'impôts durant ces 5 prochaines années si M. Macron est élu, notamment la suppression de la redevance publique, la suppression de la CAVE pour les entreprises. Et donc, je voulais vous demander, va-t-on continuer vers une politique libérale de baisses d'impôts alors que la France est bien connue pour être un des pays qui impose le plus au monde?
Alors, politique libérale, je nuancerais libérale sociale, parce qu'on a quand même toujours la volonté, vous savez, le fameux en même temps. Ben, vous le retrouvez là, on a parlé longuement avec vos collègues de santé et d'éducation. Vous voyez qu'on essaie d'investir beaucoup dans ces domaines-là qui sont, et puis on n'a pas parlé, mais du grand âge aussi, qui sont quand même le programme social, les retraites aussi, et en même temps, il faut rendre le pays attractif, quoi.
Oui, mais sur l'imposition.
Oui, mais ça joue en baissant l'IS. On rend les entreprises plus attractives, clairement.
Oui, mais ça permet la redistribution tout de même.
Oui, mais enfin, si vous n'avez pas d'entreprise qui s'installe, vous ne distribuez rien.
Mais la France est quand même un des pays qui attire le plus en Europe.
Mais depuis quand?
Depuis plusieurs années.
Oui. Depuis qu'on a rendu plus attractive par l'IS, par plein de sujets, qu'a-t-on pas entendu quand on a modifié l'impôt sur les grandes fortunes? Ouais, on a été très critiqués là-dessus. On a dit on va continuer à fiscaliser ce qui est du ressort en fait de l'immobilier, et par contre tout ce qui est placement mobilier, on va vouloir développer à fond, c'était la loi Pacte notamment, le capital risque. Et parce qu'aujourd'hui ce qu'on manque en France, c'est qu'on réussit très très bien dans les startups, mais après de passer aux ETI, c'est-à-dire les entreprises de taille intermédiaire, les Allemands sont très bons, les Italiens sont très bons, notamment dans le domaine industriel, mais pas que, mais on est très mauvais en France sur ces...
Oui, ma vraie question, c'est est-ce qu'on va continuer à baisser les impôts?
Oui, la réponse est oui. D'accord. Sur l'IS. Mais on va le faire avec du discernement, notamment sur une fiscalité écologique qu'on va prendre en compte. C'est une demande de nos concitoyens. Et puis c'est une éthique environnementale qu'on veut mettre en œuvre, mais dont on voit bien qu'on ne le fera pas seul, qu'on le fera avec nos partenaires européens. On a la présidence française de l'Union européenne. Ce qu'on a, c'est également la taxe écologique, la taxe carbone à tout ce qui rentre à l'intérieur des frontières européennes. Et ça, c'est un magnifique défi environnemental et une évolution des paradigmes du capitalisme, du libéralisme, ce que vous direz. Et Emmanuel Macron le porte. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de pays qui veulent aller en ce sens-là. La France, qui avait été quand même très touchée pendant le premier confinement avec un arrêt de nombre d'activités, qui a coûté très très cher. Aujourd'hui, on est reparti très fort, malgré la situation actuelle géopolitique qui fait que la crise des matières premières et de l'énergie touche le pouvoir d'achat. En fait, ça nous permet aujourd'hui d'avoir entre 3 et 4 % de croissance estimée pour 2022. Donc l'une des plus hautes de l'Union européenne, la plus haute des grands pays de l'Union européenne.
D'accord, bah très bien, continuons avec le travail, cette valeur travail. Et donc, après France Service, France Relance, voilà France Travail, une proposition du candidat Emmanuel Macron qui a pour but de modifier le nom de Pôle emploi. Mais quel en est l'intérêt, si ce n'est la mise avant de la valeur travail? Alors, on se posait peut-être des questions, peut-être un retour aux fondamentaux, travail, famille, patrie.
Oui, votre allégation est quand même douteuse, là, me semble-t-il. Vous connaissez quand même les valeurs. Vous connaissez quand même les valeurs de cette majorité, et donc elles sont à l'opposé.
Conservateur, on va dire, une orientation conservatrice à minima.
Ah, pas du tout. Ah non. Alors franchement, et dans les partis de gauche pendant longtemps, la valeur travail était la valeur essentielle, celle qui était particulièrement respectable. Mais nous, on la revendique. Et l'émancipation, c'est le travail, c'est l'activité, c'est la vie en société, c'est la relation qu'on a avec les autres. Et c'est certainement pas de rester à la maison, d'être condamné, j'oserais dire.
Les Français sont feignants?
Non, je pense absolument pas plus que d'autres, etc. Et d'ailleurs, quand on voit les indices de productivité, ils sont d'ailleurs des indices de productivité très élevés dans le monde, et plus élevés que les Allemands et que les Américains. Non, pas
alors
du
pourquoi
tout.
Pourquoi changer ce nom France Travail, c'est très agressif.
Si on en reste qu'au nom, c'est complètement cosmétique.
Mais alors pourquoi changer? Quel intérêt? Les Français aimeraient sûrement savoir pourquoi Emmanuel Macron propose ça.
Achille, votre écoute est tronquée sur ce qu'a dit le président de la République. Elle est tronquée parce qu'il a expliqué pourquoi. Il a dit que l'ensemble des acteurs, que ce soit Pôle emploi, la mission locale, la gestion également de l'insertion, enfin tout ça était dans des tuyaux d'orgue, des fois qui ne se parlaient pas nécessairement. L'idée, c'est d'être au service du travail et de la remise des personnes au travail, parce que franchement, ce n'est pas un but que d'être au RSA pour la plupart des gens. Donc c'est comment on fait pour les remettre au travail en les accompagnant, en faisant œuvre d'insertion, œuvre de formation. Et ça, c'est des vrais investissements pour qu'on soit dans une société, à mon avis, beaucoup plus pacifiée. Mais je ne pense pas qu'il y ait une idéologie totalement libérale derrière. Je pense que l'émancipation est par le travail. Et du reste, quand vous regardez le PIB par habitant dans les autres pays européens, je reviens d'Islande, dont on ne peut pas dire quand même que ça soit un bagne social. J'ai été en Allemagne, j'ai été dans les pays scandinaves. L'idée, c'est quand même plutôt s'inspirer de ces pays-là où on travaille certainement plus, parce que plus longtemps, et puisqu'on a moins de gens au chômage, mais on redistribue des avantages. Or, la redistribution, elle peut être efficiente que si vous arrivez à une production nationale assez importante pour qu'il y ait une équité dans la redistribution. Voilà l'idée, voilà le projet politique. Donc, il est bien plus scandinave que ce que vous avez dit au début de votre propos.
Je suis d'accord. En Allemagne, il y a beaucoup quand même de précarité d'emploi. Beaucoup de personnes doivent cumuler plusieurs emplois à la fois pour réussir à vivre. Est-ce qu'on continue vers une précarisation du marché du travail ?
Est-ce qu'on précarise le marché du travail ? Je le pense pas.
De plus en plus de CDD, une diminution des CDI.
Non, je le pense pas. On a moins de gens. On peut se réjouir quand même que le chômage a baissé comme jamais on pensait qu'il baisserait malgré les crises. Et souvent, on s'est enfermé dans des dogmes du co-gestion avec certains syndicats, souvent vraiment de gauche, sans faire avancer les choses, avec une lutte contre l'exclusion qui n'a pas progressé, avec des gens qui étaient dans des voies de garage, mais effectivement, il y avait une sorte de satisfaction générale sur cet état hyper-providence, hyper-social, etc., mais en menant les gens dans des voies de garage et sans faire baisser le taux de chômage ou d'inclusion. Et bien voilà, donc on est plus dans une vision dynamique au service des débouchés de demain et dans une volonté d'être transparent.
Je vous propose de terminer, merci Achille Armino, je vous propose de finalement terminer ce cycle d'entretien avec les représentants landais des candidats à cette présidentielle sur la thématique avec laquelle on a pu commencer, à savoir l'écologie, mais aussi l'énergie. Et c'est avec vous, Elsa de Nuel, qu'on va le faire.
Donc nous le voyons, avec les tensions géopolitiques qu'il y a notamment en Ukraine, nous sommes relativement dépendants des autres pays. Donc la question se pose, donc comment être plus indépendant par rapport à ces questions de l'approvisionnement en gaz, en pétrole, et notamment, est-ce qu'il y aurait une possibilité de revenir à des énergies polluantes temporairement pour assurer l'indépendance énergétique de la France ?
Vous faites allusion à la déclaration de Barbara Pompili qui a dit que on allait proroger en fait le fonctionnement de la centrale charbon en Lorraine. Je me souviens plus le nom, mais au moins d'une année, de façon à faire face en fait à cette crise énergétique qui est liée à la décision quand même, je le rappelle, d'un seul homme, Vladimir Poutine, qui met dans l'embarras le monde entier, que ce soit d'un point de vue énergétique pour l'Europe, principalement l'Europe, mais également la crise nourricière qu'on risque d'avoir, la famine qu'on risque d'avoir dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique. Bon, et le coût que nos compatriotes vont payer. Donc vous voyez que la décision d'un seul homme permet de rabattre les cartes sur une politique énergétique d'un État, voire d'un continent entier. Bon, alors nous, on est moins dépendants que les Allemands ou les Italiens sur le gaz, ça vous le savez. Sur le pétrole, nos approvisionnements sont très diversifiés. Mais une fois de plus, on s'était mis pour objectif de sortir des énergies carbonées.
Oui, justement, ce ne serait pas là le piège de se dire que temporairement, on revient à des énergies plutôt polluantes et en fait de se retrouver plongé dans ça.
Non, parce qu'en fait, je comprends ce que vous voulez dire, mais notre volonté, enfin, je parle de la France, pour le coup. L'annonce des 6 nouveaux EPR, enfin, on a reproché à Emmanuel Macron de ne pas avoir fait l'annonce du remplacement nucléaire, mais on n'était pas prêt quand même sur les EPR. Je vous rappelle quand même les épisodes peu glorieux en Chine, au Royaume-Uni, en Finlande et à Flamanville sur les problèmes de conception de l'EPR. Mais comme ça fait longtemps que vous n'avez plus de centrales nucléaires, effectivement, on avait un vrai problème d'ingénierie là-dessus. Oui, mais sauf qu'avant de lancer 6 programmes d'EPR, il faut être sûr quand même que la technologie, on arrivera quand même un jour à la construire et qu'elle fonctionne. Parce que c'est quand même l'énergie des Français sécurisée qui est en jeu. Donc, de la même façon, vous avez vu les débats qui ont animé, moi j'en ai vu beaucoup de débats dans l'hémicycle, je peux vous dire, sur les éoliennes, mais également sur le photovoltaïque dans les Landes. Les débats qu'on a en permanence entre certains qui sont les tenants d'une forêt dans laquelle on ne pourrait pas mettre de photovoltaïque, or là aussi il faut réintroduire de la nuance. Si vous voulez décupler les énergies photovoltaïques, il va bien falloir utiliser l'espace qui est à disposition et mutualiser ces espaces. Donc c'est des enjeux qui sont considérable. Et donc, je ne pense pas que la crise énergétique, pour répondre plus précisément à votre question, remette en cause ces grands programmes. On fera les parcs éoliens, et on est en retard sur les parcs éoliens marins. on développera le photovoltaïque. Et franchement, si demain je devais être à nouveau amené à siéger à l'Assemblée nationale, c'est des sujets que je suis de très près. Parce que déjà, dans les Landes, on est concerné, qu'on est le premier fournisseur d'énergie photovoltaïque, et qu'il nous faut poursuivre sur les toits, notamment des grandes surfaces ou des bâtiments, mais également sur les grandes surfaces, les grandes centrales photovoltaïques qui fonctionnent très bien, parce qu'on ne peut pas avoir du tout nucléaire. Donc il faut un mix énergétique, il faut tendre vers ça et être en situation de responsabilité.
Mais pourquoi miser une partie importante de la transition écologique sur les centrales nucléaires, sachant qu'il y a le débat quand même des déchets radioactifs, qu'est-ce qu'on en fait et que ce n'est pas renouvelable. Et de plus, quand on voit l'exemple du chantier de l'EPR de Flamanville, qui n'est quand même pas très encourageant, qui devait déjà rentrer en service pour 2012, qui est maintenant repoussé à 2022, et qui son coût est quand même passé de 3 à 19 milliards d'euros. Est-ce que c'est vraiment réalisable de porter une partie quand même du programme sur le nucléaire et à ce point ?
Oui, je le pense. Avec le recul, oui. Et je vous dis, je me suis beaucoup interrogé sur tous ces sujets-là et j'ai vu effectivement l'envolée du coût de Flamanville parce qu'on était sur un nucléaire de nouvelle génération expérimental et qu'il fallait consolider ce modèle. Alors, on ne l'a pas fait qu'à Flamanville, je le rappelais tout à l'heure, on l'a fait en Finlande, on l'a fait au Royaume-Uni, on l'a fait en Chine. En Chine, ça a été le premier EPR qui a fonctionné. Mais une fois de plus, nos amis chinois, ils continuent à construire du nucléaire. Donc, l'association de la technologie française avec celle des Chinois a fait qu'on a réussi à le faire fonctionner plus vite qu'à Flamanville. Et puis, là, à Flamanville, on est en train de résoudre les derniers soucis technologiques et de mise en œuvre de génie civil.
Donc vous,
on va y arriver plus au grand carénage, à la rénovation des autres centrales nucléaires.
D'accord, pour vous, on ne se retrouvera pas dans le même problème, dans la même situation qui s'est passée pour Flamanville, que ça sera mieux développé maintenant ?
Oui, parce que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est déjà mieux qu'il y a un an et qu'il y a 5 ans. Il y a 5 ans, j'avais beaucoup plus de doutes, clairement. Bon, malgré tout, une fois qu'on a dit ça, il faut miser 50% d'énergie photovoltaïque et marine, enfin éolienne, éolien marin, également éolienne terrestre. Et sur le photovoltaïque, on a beaucoup de bêtises qui sont dites là-dessus. On dit souvent, quand on voit une ferme de 30 hectares dans les Landes, de ferme photovoltaïque, on hurle en disant « mais on enlève, on déforeste les Landes, etc. » Bon, je pense qu'il faut qu'on développe des nouvelles centrales photovoltaïques avec un nouveau design. Il faut qu'on redéveloppe beaucoup plus de biodiversité sur l'ensemble de notre territoire, sortir de ce dogme de la forêt uniquement basé sur les pins. Vous savez que dans le programme d'Emmanuel Macron, il y a un programme qui est de planter, pendant le futur mandat, 140 millions d'arbres. Bon, il faut qu'on développe aussi les micro-forêts, qui sont des sources de biodiversité remarquables. Mais donc, vous voyez que sous une centrale photovoltaïque, on peut faire plein de choses. Donc, je pense qu'on va y arriver. On a pris le scénario de RTE le plus responsable et raisonnable. Et à la fois, vous voyez que comme on a ce central nucléaire aujourd'hui en France, on est beaucoup moins dépendant du gaz de la Russie que les Italiens, les Allemands ou les Autrichiens.
Très bien, merci.
Bien, bon, restez là-dessus. Avant d'achever cet entretien, j'ai relevé comme ça deux, trois petites choses, Fabien Lainé. Dans le genre élément de langage ou mot-clé, j'ai relevé le mot paradigme, qui revient assez souvent chez vous. Des références à Sully. Alors, je ne sais pas si c'est votre côté poule au pot, ou plus que homard ou caviar, ou tout simplement voilà, votre lien avec François Bayrou et donc le modem. Je vous ai entendu faire une métaphore footballistique sur, je crois que c'est sur l'éducation. Je vais en faire une aussi, je vais en oser une sur la campagne d'Emmanuel Macron et sur son programme. Si c'était un système de jeu, j'ai l'impression, je trouve que on va dire que c'est plus du 4-5-1 que du 4-3-3. On joue la prudence, pas spécialement offensif. Est-ce que vous avez pas peur qu'à faire tourner un petit peu la balle, jouer la montre, de prendre un contre par la droite et notamment l'aile droite ? Est-ce que c'est pas dangereux ?
Ça vous surprendra pas que je dise que je m'y reconnais pas, mais oui. Dans cette métaphore. Mais non, clairement pas. Je pense qu'on est dans la... Oui, il y a une continuation du programme de 2017. C'est la même, la cohérence. On va pas renverser la table et inventer une autre forme de programme. On va évidemment jouer la continuité de ce qu'on a commencé à engager, surtout là où on a vu que ça avait des effets. Enfin, je veux dire, sur le chômage, on a vu que ça avait été efficace, sur la formation, sur l'apprentissage, sur l'attractivité du pays, ça a fonctionné. Alors, pas autant à certains égards de ce qu'on aurait imaginé, mais des fois plus que ce qu'on imaginait. Donc oui, là, on va jouer la continuité. Clairement, et c'est totalement assumé. Et à trouver un équilibre, surtout au sortir de la grande crise Covid, évidemment pendant la crise internationale que nous traversons, évidemment, avec toujours ce pilier, cette recherche perpétuelle de l'équilibre entre le social, également le libéral en économie et aussi en sociétal.
Peut-être vous demander pour conclure globalement ce que vous avez pensé de cet entretien ou de cette forme d'exercice.
Je suis admiratif de la qualité de nos débats, mais lié à ceux qui m'ont posé des questions, pas à moi.
Et encore moins à moi.
Et à vous aussi. Mais c'était fouillé. Il y avait vraiment un effort d'aller voir quel était le programme. Ok, il l'avait lu, mais également quelle était l'idée même, l'essence même en fait des mesures qui étaient proposées par Emmanuel Macron et pourquoi faire. Et donc un vrai travail intellectuel, d'échange. Et moi, j'ai apprécié ces questions qui n'étaient pas tout le temps faciles. Et du coup, moi, je suis un peu rassuré pour l'avenir politique, journalistique de la France. Je pense qu'on a des futurs élus ou des futurs journalistes ou des futurs fonctionnaires qui sont de qualité. Et en tout cas, bravo à eux. Et c'était un vrai plaisir que d'échanger sur tous ces sujets qui me tiennent à cœur, sans tabou, sans flagornerie, et en essayant, moi j'essaie de répondre le plus honnêtement possible. Bon voilà, donc merci à vous en tout cas pour ces questions, et ne ménagez pas les autres qui me suivront.